Vous êtes sur Radio Libertaire et c'est le moment de l'émission CND Educ. 9-3.
Et bonsoir camarades, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission de la CNT Éducation 93. Alors vous, là je suis en direct du studio de Radio Libertaire, mais l'émission que vous avez écoutée ce soir a été enregistrée, c'était une petite annonce juste avant. L'émission a été enregistrée au mois de novembre, donc il y a des éléments qui vous paraîtront un peu datés, mais voilà, l'émission n'est pas en direct. On vous laisse écouter ça pendant 2 heures, on est le deuxième mardi du mois, comme d'habitude. Bonne écoute, profitez bien, et on se retrouve à la prochaine émission. Nous sommes le 11 février, donc on se retrouve à la prochaine émission du 11 mars, 20h30. Bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt.
La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de risques que le thriller qu'on m'a vu. Justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de risques que le thriller qu'on m'a vu.
Vous êtes sur Radio Libertaire et c'est le moment de l'émission CND Educ. 9-3.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission du STE 93, donc le syndicat des travailleuses et travailleurs de l'éducation du 9-3 de la Seine-Saint-Denis, de la CNT, Confédération Nationale du Travail. Donc ce soir on est tout content de vous retrouver pour cette nouvelle émission et on comptait voilà un peu pêle-mêle vous parler de différents sujets. Donc on a à la fois préparé un sujet sur les inondations qu'il y a eu à Valence. Ça peut paraître surprenant, mais en fait on s'est dit que encore une fois tous ces chamboulements, tous ces drames qui sont liés au réchauffement climatique, mais en fait c'est pas anodin, c'est aussi lié directement à l'incompétence de l'État et à toutes ces défaillances et à tout le mépris que l'État peut avoir pour le peuple et donc en particulier pour les citoyens des classes populaires. Et donc on est spécialement heureux d'accueillir Youri à cette occasion qui va nous parler de ce sujet plus en profondeur. Et sinon, ouais, je vous disais, sujet pêle-mêle dans la mesure où on s'est aussi dit qu'on allait parler de... des actualités récentes en Martinique, donc ce territoire soi-disant ultramarin, alors qu'en fait il s'agit purement, bonnement, simplement d'une colonie française qui, pour l'instant, et on l'espère pour seulement encore peu de temps, demeure une colonie française. Et tout ce qui se passe actuellement, que ce soit la vie chère, le scandale absolu du chlordécone, et etc., etc., j'en passe, c'est révélateur de ce poids que l'État français maintient sur certains territoires. On peut penser également à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie, Kanaky, bien sûr, etc., etc. Donc, avant d'aborder tous ces sujets plus en profondeur, on va s'écouter un petit son et on revient tout de suite après. Bonne écoute.
Mmh.
Rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission de la CNT du SCE 93. J'espère que vous ne tiendrez pas trop rigueur de cette petite blague que l'on a fait ce soir. On vient d'écouter California Dreaming, donc de Mamas and de Papas. Et c'était un petit clin d'œil assez provocateur par rapport aux actualités toutes récentes, aux États-Unis, avec la nouvelle élection de Donald Trump. Déjà qu'on n'y croyait pas la première fois, ça a récidivé. Et voilà, ce dream, ce rêve californien. Mais il y a quand même pas mal de nuages gris autour. Et voilà, c'était retour un peu dans les 70s. Mais un peu aussi dans cette vision cyclique où on a l'impression qu'on se mobilise un peu toujours contre des moulins à vent et que finalement on bouge, mais là-haut ça bouge pas beaucoup quoi. Et encore une fois aussi c'était lié à cette question du temps tout bêtement, de la météo, de ce putain de réchauffement climatique auquel on se confronte. Et que les dirigeants ne savent évidemment pas gérer, comme Yuri va nous en témoigner avec l'exemple de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, pas actuellement, mais en tout cas, même s'il y a des conséquences toujours actuelles, malheureusement, mais de ce qui s'est passé quelques semaines antérieurement à Valence, en Espagne. Donc voilà, on est très content d'accueillir le camarade ce soir. Yuri, salut Yuri.
Salut tout le monde, j'espère que ça va.
On espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien pour tout le monde. Et donc, on va commencer cette première partie d'émission en parlant de cette catastrophe qui s'est abattue sur Valence et bien sûr liée au réchauffement climatique, au cas où certains étaient encore sceptiques à l'idée que l'on soit face à une catastrophe en cours.
Il y a eu des grosses inondations, effectivement, à Valence, la fin octobre. Là, il y a une dizaine de... alors le point actuel à 123 morts, 78 disparus, donc déjà on a une pensée pour ces personnes, pour les familles, etc. Puis celles et ceux-là qui sont en pleine galère là à Valence, c'est ce qui s'est abattu sur la ville et sur la région. Et ouais, en fait, la conséquence aussi du réchauffement climatique et puis bien sûr de la gestion derrière par les autorités hein, qui bien sûr ne font rien fait pour ouais, du coup les inondations elles sont dues à des très 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 fortes pluies qui sont abattues sur la région de Valence pendant une grosse journée là j'ai peut-être le 30 octobre les inondations qui sont abattues sur Valence. Oui, les grosses inondations qui sont abattues sur Valence le 29 octobre. Le 1, je pensais parler de l'impact du réchauffement climatique. Donc, en fait, bon, c'est des phénomènes, ce qu'on appelle des gouttes froides, qui s'abattent régulièrement sur les zones méditerranéennes. Vu qu'on est sur la Méditerranée, on est sur une mer plutôt chaude, donc avec beaucoup d'évaporation et donc formation de grosses cellules orageuses. Mais bien sûr, ça, ces événements-là qui avaient déjà lieu par le passé sont augmentés, sont aggravés par le réchauffement climatique, puisqu'il y aura de plus en plus d'eau dans l'atmosphère. Pour vous donner une idée, une augmentation de 1 degré dans l'atmosphère permet de stocker 7% d'eau sous forme de vapeur, 7% supplémentaire. Et donc là, on l'a vu quand on compare par rapport aux inondations de 1957, qui avait déjà fait à l'époque plus de 80 morts. Le pic à l'époque, il avait été mesuré à précipitation, avait été mesuré à 361 mm de pluie. Et là, à 30 km à l'ouest de Valence, on a mesuré un pic là à 446 mm de pluie. Donc on voit bien aussi la plus grande quantité d'eau qui s'est abattue par rapport à il y a 60-70 ans. Et puis bon bah ça va avec toutes les publications scientifiques hein, qui montrent sans même parler de rapports de GIEC hein, mais des publications scientifiques qui font les calculs qui montrent que ces phénomènes-là intenses s'aggravent. Je rappelle que sur la même semaine il y a eu les inondations au sud de la France, donc l'Ardèche et dans les départements de l'Ardèche et de la Loire. Quelques jours plus tard, à Barcelone, il y a eu aussi des grosses inondations avec etc. Et aussi en Italie, sur les îles de la baie de Naples, il y a eu, pareil, des grosses soirées avec des énormes orages. Donc, quand avant, on avait des événements comme ça qui étaient plus individuels, on va dire, là, on a une somme d'événements sur un temps très, très court sur le bassin méditerranéen et c'est très, 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 très inquiétant.
Et du coup, j'allais te demander, est-ce que tu as commencé à en parler un petit peu? Est-ce que tu aurais des références bibliographiques à nous donner? Genre, tu as parlé du rapport du GIEC?
Oui, alors, bah, le rapport du GIEC, après, en eux-mêmes, c'est des compilations d'articles scientifiques. Donc, il y a bien sûr, dans le rapport du GIEC, ensuite, il faut aller ouvrir bah, toutes les publications. Là, je vais pas en avoir. Mais...
C'est quoi GIEC, déjà? Ça signifie quoi, tu sais?
Au moins intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat.
Ok. Merci.
Voilà, qui est. Donc en fait, alors c'est. L'historique du GIEC, c'est que c'est issu d'abord de la communauté scientifique. Et c'est vrai que, passé les années 90, il y a eu une récupération par les gouvernements. Et. En fait, ils montrent que, enfin, il y a des historiens du climat qui ont montré que les travaux en eux-mêmes, en fait, les rapports du GIEC sont des compilations de travaux pour la partie scientifique. Mais en revanche, c'est sur la partie, disons, sociopolitique, pour de prévention, etc., où il est montré que les rapports du GIEC sont quand même assez biaisés sur les actions à mener pour atténuer, prévenir les effets du réchauffement. Mais voilà, en tout cas, les publications scientifiques, elles, qui sont produites bah, par les chercheurs, chercheuses, doctorants et doctorantes en climatologie, en physique, etc., eux, pour le coup, il y a vraiment un consensus scientifique au niveau mondial sur sur le réchauffement climatique, l'augmentation de la température, l'augmentation des catastrophes naturelles liées à ce réchauffement climatique.
Ok, du coup, je ne sais pas si tu souhaites poursuivre à nous détailler encore davantage concrètement qu'est-ce qui s'est passé factuellement, etc., ou peut-être nous parler aussi de tout ce que ça révèle en termes de peut-être d'incompétence aussi de l'État. Enfin.
Ouais, tout à fait. Bah. C'est un peu ce qui s'est passé en amont, c'est-à-dire il y a eu clairement une destruction du service public de prévention en Espagne. Oui, donc je voulais aussi parler bien sûr ce qui s'est passé donc en amont de ces inondations, c'est que il y a eu déjà une destruction du service public de prévention. Il y avait en Espagne une unité de gestion des urgences, voilà, pour tout ce type de catastrophe. Donc l'unité de gestion des urgences sur Valence a été supprimée pendant la mandature Carlos Mazón à la demande du parti d'extrême droite. Voilà, le mandat a duré de 2023 à 2024. En fait, c'est extrêmement récent. Là, pour le coup, ils sont sous les critiques, et ça, j'en reparlerai. Et ce qui est clair aussi, c'est que... les personnes qui ont été touchées, c'est à cause de l'urbanisation, en fait. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des inondations de 1957. En fait, elles avaient inondé le centre de Valence à l'époque parce que le fleuve passait dans le centre de Valence, le centre ayant été construit voilà, sur la rive du fleuve Tourbière. Et suite à ces inondations-là, il y a eu un énorme chantier de réaliser qui est la déviation du fleuve. Sur sa partie terminale, voilà, pour contourner le centre-ville de Valence et éviter que ça se reproduise. Alors effectivement, cette année, ça a marché. Le centre-ville n'a absolument pas été inondé. Alors, d'ailleurs, c'était très ironique parce que le centre-ville, lui, continuait à vivre, à recevoir des touristes pendant que station était. Et en fait, donc le fleuve a été détourné dans la partie sud de la métropole de Valence. Il n'a pas débordé, c'est pas le fleuve en lui-même qui a débordé, mais par contre, il y a d'autres petits cours d'eau aux alentours de Valence, dans la partie sud, qui passent dans la banlieue. Et c'est ces fleuves-là qui ont été qui sont sortis de leur lit, qui a inondé les villes devant. Il n'a pas été prévu que ces fleuves, ces petits cours d'eau, puissent se jeter dans le nouveau lit du fleuve construit dans les années 60-70. Et comme vous vous en doutez aussi, en Europe de l'Ouest, la plupart des eux, ce sont les poules qui habitent, entre riches et les poules. Et donc, ça a été touché les poules.
Oui, c'est clairement une question de classe encore, bien. Quoi.
Ah oui, clairement, bah, c'est vraiment... Ouais, tout à fait. Et bien sûr, avec tous les phénomènes d'urbanisation à outrance, d'imperméabilisation des sols, c'est-à-dire les sols absorber le eau, etc., etc.
Oui, et qui dit urbanisation dit gentrification aussi, non?
Tout à fait, oui. Voilà, ça c'est pour vraiment là, ce qui s'est passé en amont, quoi. Donc le double phénomène, suppression des services publics d'urgence et l'urbanisation galopante et la non prise en compte sur l'urbanisme. Voilà, et puis après, c'est surtout immédiatement après pendant et après la catastrophe que c'est extrêmement grave et on voit les effets de les effets, etc. Alors, c'est un peu pêle-mêle, mais tellement de choses qui se sont passées finalement. Les habitants n'ont pas été prévenus, notamment les travailleurs du secteur privé n'ont absolument pas été prévenus correctement. Les entreprises n'ont pas fermé et les gens ont continué à aller au travail, à pouvoir aller dans les supermarchés, etc. C'est pour ça que le bilan est aussi lourd. En fait, les gens étaient. Les universités de Valence et les écoles, pour le coup, elles ont été fermées. Ça a visiblement limité. Ça a en partie limité le bilan, quoi. Mais là, les entreprises privées, elles sont coupables d'être restées ouvertes. Les gens ont reçu une alerte sur leur téléphone des inondations à 20h le soir. Alors, là, complètement utile. Très vite, il y a eu une inertie après sur la mise en place des services de secours, qu'il a fallu parfois plus de 5 jours, les pompiers ou les militaires arrivent sur place. Très compliqué. Il a fallu en fait, d'eux-mêmes se mettre à céder entre eux, à dégager les rues, etc., etc., sachant que les rues étaient jonchées de voitures. Donc, en fait, déplacer une voiture quand on n'a pas d'engin. Voilà. Il y a eu ensuite des personnes qui ont été interpellées dans certains supermarchés parce qu'elles se servaient de nourriture en fait, pour pouvoir se nourrir. Il y avait... puisque très certainement chez eux tout avait été détruit par l'eau. Il y a des personnes qui ont été bien sûr sans aide, des personnes âgées qui peuvent pas se déplacer ou des personnes dépendantes ou des personnes avec des handicaps physiques qui n'ont pas pu se faire aider. Ça a mis beaucoup beaucoup de temps. Il y a des gens qui sont décédés coincés dans leur voiture parce que des parkings souterrains ont été inondés, etc. Donc, non, c'est... Là, vraiment, sur la gestion vraiment très, très immédiate des inondations, c'était catastrophique.
Oui, il y a eu des défaillances à tous les niveaux, quoi, j'ai l'impression.
Ouais. Et puis, une fois les quelques jours, vraiment, de passer vraiment le cœur du truc, quoi. Il y a des gens qui ont pu commencer à témoigner, par exemple, des gens qui ont dit que leur patron les avait obligés à venir travailler les lendemains, alors que les gens n'avaient plus de voiture, par exemple. Voilà, donc des gens qui ont dû faire des dizaines de kilomètres à pied ou en transport, alors qu'ils n'avaient plus de moyens de locomotion. C'est d'une dégueulasserie absolue, quoi, sur voilà, d'une
Est-ce que tu sais si ça a été d'ores et déjà classé ou comme catastrophe naturelle par rapport aux potentielles indemnisations que vont pouvoir recevoir les gens par rapport à leur sinistre?
Alors, je suppose, après je connais pas la législation espagnole, je suppose qu'il doit y avoir des choses équivalentes à ce qu'il y a en France. Il semblerait que l'Union européenne a déclaré qu'ils ouvriraient des fonds, mais je pense que c'est encore un peu tôt là pour le dire. Après, si on prend des exemples d'autres de choses qui sont passées, qui sont déjà passées, les compagnies d'assurance sont de plus en plus réticentes en fait à rembourser, parce qu'en fait les dégâts sont tellement les chiffres tellement élevés qu'en fait les compagnies d'assurance disent non mais non on va pas pouvoir on n'a pas voilà, on peut pas, alors qu'en fait les gens cotisent depuis des années quoi. Donc en fait c'est pas impossible qu'on voit aussi qu'on voit ça se répéter à Valence hein.
Ouais, c'est assez concernant le bilan que tu es en train de dresser. Je me demandais aussi, plus directement par rapport à notre champ, à notre secteur d'activité, je me demandais aussi finalement comment ça avait été géré par rapport aux écoles, par rapport aux institutions scolaires. Est-ce qu'on sait un peu l'impact que ça a pu avoir?
Bah, comme j'ai dit, il y a eu des écoles et les universités de fermer, elles, pour le coup, en amont. Après, ça pour le coup, il faudra attendre que je pense les gens finissent voilà de nettoyer, que ça retombe entre guillemets, que voilà pour que les gens là-bas puissent dresser un bilan, parce que là pour le coup, c'est encore très très compliqué de savoir. De savoir ce qui s'est passé en détail.
Je ne sais pas si tu as encore des points que tu voudrais soulever avec nous.
Oui, bah, c'est un peu des conséquences aussi politiques un peu plus larges. Alors, je voulais parler de la visite du roi, parce que donc, le roi d'Espagne a fait une visite bah, sur les lieux du sinistre, accompagné donc, président du Conseil, donc, Premier ministre espagnol, donc, Sanchez et du président dont j'ai déjà parlé, Carlos Mazón. Donc ils ont fait une visite commune et les habitants excédés ont jeté de la boue et des pierres en fait en direction du président du conseil et du président de la région. En leur criant que c'était des assassins, etc., etc. Parce que, voilà, très très vite, les gens ont rappelé qui était à l'origine de la gestion. Alors, c'est d'autant plus le président donc, de droite de la région qui est un criminel. Alors, c'est sur fond de gestion entre les régions et l'État fédéral. Parce que, vu que l'Espagne est une république parlementaire fédérale, en fait, et il faut que les régions demandent à l'État d'intervenir. L'État ne prime pas, contrairement à la France, par exemple. Et du coup, certains disent pourquoi Mazón, il n'a pas suffisamment rappelé l'État. À l'inverse, certains reprochent à l'État de ne pas avoir activé un plan d'urgence immédiatement. Enfin voilà, c'est assez, c'est très 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 compliqué quoi. Mais voilà, en tout cas, les habitants se sont bien rendus compte que les autorités, voilà, les hommes politiques en fait étaient surtout coupables en fait de négligence enfin c'est pas de la négligence. Elles étaient coupables d'actions qui ont mené à la catastrophe et à ces plus de 220 morts, quoi. Mmh. Et puis, bon, l'extrême droite, bien sûr, se ruait un peu sur le truc parce que, avec une faillite comme ça de l'État fédéral espagnol, forcément, en fait, l'extrême droite qui peut dire que l'État les abandonne, etc., etc.
Oui, eux, ils récupèrent ça après.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que, en fait, c'est sous la pression du parti d'extrême droite Vox que l'unité de gestion des urgences a été supprimée. Voilà. Et puis même, c'est hyper cynique. Il y a eu même un lien avec les actualités au niveau du foot et du génocide en Palestine.
À Amsterdam.
Oui, voilà, Amsterdam. C'est que donc il y avait un match jeudi soir, il y avait un match d'Europa League entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Et donc il y a des ultras d'extrême droite du Maccabi Tel Aviv qui ont fait le déplacement. Qui ont fait le déplacement à Amsterdam, qui visiblement n'ont pas respecté la minute de silence dans le stade en mémoire des victimes des inondations en Espagne. Et puis après, bah, y a eu les échauffourées, les bagarres d'ultra facho là, dans les rues d'Amsterdam, etc. Voilà. Donc voilà, comble du cynisme que les inondations rentrent dans ce qui se passe au Proche-Orient.
Et je viens de voir là que Odoul, en France, proposait que le prochain match France-Israël se joue en Corse pour pas que les Israéliens soient chamboulés, soient attaqués par les islamistes de région parisienne, etc. Je sais pas si tu as vu ce truc-là.
D'accord. J'ai pas vu, mais oui, effectivement, je crois que le prochain match, il y a un match France-Israël dans très peu de temps, là.
Ouais.
Et effectivement, je crois qu'il joue au Stade de France, donc à Saint-Denis. Donc
le RN est encore dans les starting blocks, enfin, comble du cynisme, ouais, encore une fois, comme tu disais.
Ouais. Eux qui sont héritiers d'un parti fondé par les Waffen-SS viennent donner des leçons sur l'antisémitisme.
Ils réécrivent l'histoire.
Ouais. Voilà. Non. Là, voilà pour le tableau. C'est assez sombre et de nouveau, je pense que on pense fort là, aux habitants de la région de Valence là qui ont subi ça.
Bah oui.
Parce que le tableau est très très sombre. Ça, c'est et. Et en fait, ça pose aussi la question de comment, voilà, est-ce qu'on se prépare aux conséquences du réchauffement climatique? Et comment on lutte aussi pour que le réchauffement climatique, en tout cas, que les émissions de CO2 s'arrêtent, quoi. Parce que malheureusement, là, maintenant que les émissions de CO2, elles se sont accumulées dans l'atmosphère depuis plus de 150 ans, les conséquences, elles sont déjà là, elles vont continuer pendant des siècles, hein, clairement. Donc, il faut c'est d'où l'enjeu est énorme, parce qu'il faut à la fois stopper les émissions et à la fois se préparer pour se préparer aux catastrophes qui auront lieu dans le futur.
Ouais, bon, ça fait un peu peur, hein, tout ça.
Ouais, ça fout le cafard. Le capitalisme, nous n'êtes pas là-dedans. Bien évidemment.
Donc, merci encore une fois au camarade Yuri d'avoir été avec nous et pour toutes les explications qu'il a pu nous fournir. Avant de poursuivre notre émission, on s'écoute un petit son et on écoute le titre Planète Brûlée du groupe Planète Boom Boom. À tout de suite, bonne écoute.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution,
ils n'ont jamais été aussi nombreux à manifester à travers toute la France.
L'immense majorité des actifs français restent opposés à cette réforme.
Thank you. même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat,
même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat,
même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat,
même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat,
même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat,
même combat.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission donc de la CNT du STE 93, le syndicat des travailleuses et travailleurs de l'éducation de Seine-Saint-Denis. Donc après avoir parlé du réchauffement climatique et plus particulièrement des actualités récentes en Espagne, on voulait évidemment pas passer sur ce qui se passe en Martinique et vous n'êtes pas sans avoir vu que y a énormément de mobilisation actuellement contre la vie chère, contre le scandale du chlordécone. Il y a des milliers de camarades qui s'organisent et qui défilent actuellement à la fois sur le territoire de Martinique et aussi dans l'Hexagone et bien sûr à Paris. Et on s'est dit que du coup ça valait le coup un peu de réécouter les paroles d'un la chercheur d'envergure qui est Malcolm Ferdinand, donc qui est un peu le penseur de l'écologie décoloniale et ça nous semblait important un peu de reposer les bases de ce qu'est l'écologie décoloniale d'un point de vue d'un penseur, d'un chercheur, d'un militant afro-caribéen. Donc on écoute le témoignage de Malcolm Ferdinand et on se retrouve tout de suite après. À plus tard, bonne écoute.
Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but.
Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopic, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Malcolm Ferdinand, philosophe et auteur d'un essai qui vient de paraître au Seuil, intitulé « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Malcolm Ferdinand propose une conception de l'écologie radicalement en rupture avec son acception dominante, une écologie décoloniale, une écologie du monde. Par-delà environnementalisme et colonialité, il développe un récit qui nous permet de penser la modernité depuis la perspective des mondes caribéens. Un récit qui n'occulte pas l'existence des navires négriers du passé et du présent, des plantations d'ici et d'ailleurs, ni le sort de ceux qui sont dans les cales de cette modernité. Il nous propose un récit qui saisit le tout monde contemporain dans sa complexité, et qui permet de théoriser et de problématiser les enjeux du présent autrement. Ce récit propose une autre compréhension et une autre généalogie de la crise écologique. D'autres références, d'autres figures sont convoquées, et nous permet de comprendre que toutes les destructions sont construites, qu'elles s'inscrivent dans une histoire politique, sociale, économique, culturelle, ici, celle de notre modernité occidentale et du monde qu'elle a configuré, autour de ce qu'il appelle un habité colonial de la Terre. L'ambition de l'écologie décoloniale, ce n'est pas seulement de changer de récit, ni de protéger l'environnement, ni encore de reconnaître les luttes antiracistes ou anti-esclavagistes, mais bien plutôt d'instaurer un monde. De réparer la double fracture qui sépare les luttes décoloniales des luttes environnementales pour retrouver la force nécessaire et enfin briser la cale du monde. Cette écologie décoloniale propose de quitter la plantation et son air. Elle nous permet de voir ce qu'il reste à faire et à défaire. Elle nous rappelle également que les coutils qui séparent le pont de la cale se brisent des deux côtés, du côté des libres et des captifs. Et que l'on a tous du travail, car la modernité nous a inculqué à tous des formes de l'habité coloniale. C'est un livre passionnant et important qui réussit à tenir ensemble sans mettre de côté l'exigence de justice. On vous invite vraiment à le lire parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout dans cet épisode et que c'est un essai qui a véritablement le pouvoir de transformer nos imaginaires et que l'écologie, c'est aussi une question d'imaginaire. Bonne écoute.
Malcolm Ferdinand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en environnement et docteur en philosophie politique. Actuellement, vous êtes chercheur au CNRS et vous venez de publier un ouvrage intitulé « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen » publié au Seuil dans la collection Anthropocène. Alors cet ouvrage reprend en partie vos travaux de thèse dans lesquels vous articulez les enjeux philosophiques et politiques des conflits écologiques dans les mondes caribéens que vous connaissez bien car vous êtes vous-même originaire de la Martinique. Alors dans ce livre, « Une écologie décoloniale », vous proposez une toute autre conception de l'écologie, vous changez de récit, vous proposez au lecteur d'embarquer dans une traversée de l'histoire de la modernité à partir de différents navires, vous allez nous raconter ça, et donc vous nous proposez d'autres concepts, d'autres généalogies, d'autres référentiels et une autre genèse aussi de ce que l'on appelle la crise écologique. Vous nous parlez d'une modernité qui commence par une conquête violente, qui se caractérise par une manière d'habiter la Terre, une manière d'habiter le monde, une manière d'entrer en relation avec l'autre, qu'il soit humain ou non humain. Et votre travail nous permet de voir à quel point l'écologie dominante est coloniale. Alors, Malcolm Ferdinand, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une écologie décoloniale et pourquoi ça vous paraît nécessaire ?
Oui, alors je vais commencer par raconter un peu... Pourquoi il m'a paru important, finalement, d'écrire ce livre et de penser cette autre écologie, ce que j'appelle une écologie décoloniale, en énumérant un peu plusieurs points de départ. Le premier, qui est au fond le premier mot de mon livre, c'est celui de la colère. Colère face, bien sûr, à la manière dont on détruit les écosystèmes de la Terre. Nous sommes dans la sixième extinction d'espèces de masse. Colère face à ces injustices que l'on voit, injustices nord-sud, mais aussi face à ce qui se passe aux portes de l'Europe, en ce moment même, ces personnes qui se noient, qu'on accueille à demi-mot ou qu'on refuse simplement d'accueillir. Colère face aux inégalités faites aux femmes. Colère face au racisme. Enfin, Ça a été un des points de départ. L'autre point de départ, et ce qui m'a frappé dans ma formation universitaire, à la fois en tant qu'ingénieur, à la fois en tant que philosophe, c'est finalement ce que j'ai appelé dans le livre cette double fracture. C'est-à-dire vraiment ce mur qui sépare deux espaces militants critiques de la modernité. Un espace qu'on peut désigner comme l'espace écologiste, avec des associations environnementales, des associations pour la cause animale, des conférences pluriannuelles, des partis politiques verts, etc. Et un espace antiraciste, décolonial, afroféministe, qui eux aussi vont critiquer finalement cet héritage colonial de la modernité. Donc on a deux mouvements qui critiquent la modernité, mais qui pourtant, dans les universités comme dans les rues, ne se rencontrent pas et surtout ne se parlent pas. Alors bien sûr, il va y avoir des sympathies où les militants se rencontrent, il y a quand même une très bonne entente entre militants, mais parfois cela donne surtout lieu à ce que j'appelle des sympathies sans lien. C'est-à-dire qu'on est pour le combat de l'autre, pour la lutte que l'autre mène, mais on n'arrive pas à reconnaître les liens qui tissent la lutte que moi je fais ici et la lutte que toi tu fais là-bas. Ce qui fait que on a l'impression de vivre dans deux mondes séparés en fait. Mmh. Et la crise écologique remet en scène cette même double fracture. Dans la façon de penser la crise écologique communément, elle apparaît totalement déconnectée de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage. Parfois des questions d'inégalité sociale, parfois des questions de racisme, parfois des questions de misogynie, qui fait que il y a un discours bien pensant, un peu simpliste, même si ça permet parfois de rassembler plein de personnes parce que ce sont des slogans simples, qui va associer la crise écologique uniquement à quelque chose qui arrive à ce qu'on va appeler nature, à des écosystèmes, à de la biodiversité, et mettant de côté finalement cette construction historique qu'a été la modernité, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à cette situation destructrice du monde. Au niveau personnel, cela se manifeste pour moi dans mon parcours par le fait que quand je vais dans des conférences qui traitent de l'écologie, j'assiste à des cours en sociologie de l'environnement, en philosophie de l'environnement, en sciences politiques de l'environnement, quand je vais à des conférences, quand je vais rencontrer des amis écologistes, quand je participe à certaines manifestations, en France, mais aussi parfois dans d'autres pays, on se rend compte à quel point il y a une absence criante des personnes noires et d'autres personnes racisées. Et c'est particulièrement frappant parce que, en l'occurrence en France, nous sommes dans un pays avec plusieurs cultures, avec plusieurs groupes, avec plusieurs immigrations coloniales. Mmh. Et je ne comprends pas comment on a réussi à créer, dans les partis politiques comme dans les associations, ces espaces où il y a une si faible présence des racisés. Donc c'est quelque chose qui m'a interrogé. Mmh. Et bien sûr, cela est remarqué de part et d'autre, hein, notamment par les militants écolos. Cependant, cela reste remarqué surtout en termes de quelque chose de l'ordre d'une politique de la diversité. Tiens, ça serait bien qu'il y ait quelques Noirs qui soient dans les rangs, qui soient sur l'affiche quand on va aux élections, etc. etc. Or, je pense qu'il y a là un problème et que si il y a une absence, elle n'est pas du fait... Alors, il y a aussi parfois l'idée que, finalement, les Noirs, les racisés se préoccupent assez peu de ces questions-là, parce que, enfin, pourvu que ça a raison, soit ils s'en soucient pas, ce sont des thèses racistes, hein, comme Brigitte Bardot, par exemple, ou alors, ils sont trop occupés à faire autre chose sur leur propre lutte pour pouvoir s'intéresser à quelque chose de l'ordre de l'environnement. Et du coup, je pense que s'il y a une absence, elle est d'abord le résultat d'un problème dans la manière de penser l'écologie, dans la manière de conceptualiser ce qui va être compris comme relevant de la crise écologique, comme relevant de la pensée écologiste. Tel a été mon point de départ. Il y a un autre versant à ce point de départ, c'est que, en réaction finalement à ce milieu majoritairement blanc et masculin qui a été créé dans ce milieu environnementaliste, on va trouver un ensemble de méfiances légitimes au sein des mouvements antiracistes et des coloniaux, qui vont se dire « Mais finalement, si mes intérêts ne sont pas représentés dans ces milieux-là, qu'est-ce que je vais aller faire dans ces milieux écologistes ?» Et puis finalement, parfois, et il y a une histoire de cela aussi, on pourra y revenir, parfois même, ces milieux ont eu des attitudes racistes, voire esclavagistes, envers nous ou les ancêtres. Donc, mon but dans ce livre est de surmonter cette double fracture. de réussir à bâtir des ponts entre ceux qui se préoccupent de la fracture environnementale de la modernité et ceux qui se préoccupent de la fracture coloniale de la modernité. Je pense qu'il y a là des élans à tisser et c'est le but de mon livre. Pour le faire, il faut par contre tisser un autre récit de ce qu'on a appelé la crise écologique, un autre récit de ce qu'on pense comme étant la modernité, mais pareil, un autre récit de ce qu'on pense comme étant l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'esclavage. Faisant des va-et-vient de part et d'autre. Donc je commence par ce premier moment qui a été l'un des actes phares de la globalisation, la conquête des Amériques par les Européens, mais notamment 1492 avec Christophe Colomb qui arrive aux Amériques. Et l'idée étant de surmonter cette double fracture en montrant à la fois comment la colonisation a été non seulement un processus d'asservissement d'humains par d'autres humains, en l'occurrence les peuples européens qui ont asservi les peuples autochtones des Amériques, s'en est suivi un génocide, bien sûr, mais que ça a été aussi un processus de transformation, de destruction écologique extrêmement violent. Et ce que je propose, c'est de penser ces deux dimensions en même temps. Et plutôt que de faire une énumération de différents aspects, bon, il y a la colonisation, il y a la domination politique, il y a les impacts environnementaux, non, de voir comment cela participe d'un même processus. Et ce processus, je l'ai appelé celui de l'habité coloniale. C'est-à-dire que la colonisation des Amériques, la colonisation des îles caribéennes, a été aussi une imposition d'une certaine façon de se penser sur Terre, d'habiter la Terre, de se penser dans le monde, de se rapporter à l'autre, de se rapporter à l'autre humain et non humain.
Et ça a produit des effets, ou en tout cas ça a construit des structures économiques, politiques, des rapports environnementaux, enfin ça a eu des conséquences qui dépassent très largement la simple exploitation.
Tout à fait. Tout à fait. L'exploitation est une des dimensions de la colonisation et de cette habité coloniale, mais c'est vraiment au niveau de la conception même de ce qu'est être sur Terre qu'il faut comprendre ce qu'est la colonisation. Et si on la comprend comme ça, alors on va pouvoir se rendre compte que la décolonisation statutaire, le fait soit d'avoir accès à l'indépendance, soit d'avoir accès à une forme de départementalisation comme l'ont eu certaines îles, comme la Martinique, mais aussi la Guadeloupe, etc., que la seule décolonisation statutaire n'est pas suffisante. On peut très bien reconquérir une souveraineté sur son territoire et pourtant reproduire les mêmes manières d'habiter la terre qui ont été imposées par la colonisation, c'est-à-dire de poursuivre cet habité colonial. C'est ce qu'on peut remarquer dans plusieurs îles des Outre-mer, à La Réunion, à Martinique, en Guadeloupe, où finalement, oui, 1848, on a eu la deuxième abolition de l'esclavage. Oui, 1946, nous sommes devenus des départements d'outre-mer avec une égalité des droits sociaux. Pourtant, notre manière d'habiter ces terres, notre manière de se penser sur ces terres et de les occuper par une forme de puzzle de plantation n'a pas changé fondamentalement. Et en parallèle, l'affaire du chlordécone qui fait beaucoup de bruit en ce moment est précisément ce symptôme-là. C'est-à-dire que pour pouvoir alimenter un marché hexagonal, lointain, pour pouvoir permettre à certains actionnaires de faire des bénéfices, on a hypothéqué le futur des générations futures. On a pollué des terres pour plusieurs siècles et que c'était ça le but. C'est poursuivre la plantation, poursuivre cette économie de plantation.
Dans le livre, vous montrez d'ailleurs, il y a un passage sur Toussaint Louverture et vous montrez que l'économie de la plantation, l'économie plantationnaire, était tout à fait compatible avec l'abolition de l'esclavage. Voire certains planteurs y ont même trouvé, d'une certaine manière, leur intérêt en fait, à l'abolition de l'esclavage à ce moment-là. Donc en fait, vous parlez de la révolution de Haïti. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon de concevoir les choses qui amène un peu plus loin le propos sur l'indépendance et la révolution et qui permet de voir et de concevoir que les indépendances et les révolutions, quelque part, il n'y en a pas beaucoup qui ont été achevées, voire en fait, il n'y en a quasiment aucune, puisque nous sommes toujours dans une ère d'économie de plantation à l'échelle du monde, et que ce que l'on dit, c'est ce que vous appelez le plantationocène.
Oui, alors, tout à fait, je pense que la révolution haïtienne est l'un des faits politiques les plus importants de l'histoire de la modernité. Ça, il faut que ça soit clair. première nation, première république noire face à toutes les nations européennes en 1804, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense cependant que il faut réussir à penser cette révolution à venir, parce que bon, à penser ce qu'il reste à faire, à penser ce qui nous est hérité quand même de la colonisation. Et que oui, au lendemain de l'insurrection anti-esclavagiste, l'ouverture des salines, que la révolution haïtienne n'a pas nécessairement changé dans ses principes les manières d'habiter la terre. Que la plantation restait le modèle connu. Mais cela n'est pas uniquement le fait des protagonistes de la révolution haïtienne. C'est-à-dire que Toussaint Louverture pensait, et des salines par la suite, que pour pouvoir solidifier ou conserver la liberté des siens, il fallait pouvoir continuer à fournir en sucre et en café les autres nations, que c'était là la seule voie possible pour pouvoir défendre la liberté. Donc c'est un système qui est extrêmement complexe et qu'on ne peut pas tout seul dans son coin tout renverser, que malgré tout on est dans des systèmes d'interdépendance, et c'est aussi ça les autres formes de domination. Que quand la France exige qu'Haïti rembourse son indépendance, que comment Haïti va rembourser son indépendance ou va payer des indemnités aux planteurs esclavagistes, ça va être en développant encore plus cette économie de plantation, qui est une économie destructrice, qui est misogyne, qui ne nourrit pas nécessairement le peuple. Donc on voit comment tout s'enchaîne. Et ce qui s'est passé dans les anciennes colonies françaises comme la Martinique et la Guadeloupe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on s'est dit, vu que le plus important c'est la poursuite de la plantation, c'est pas grave si on abolit l'esclavage, à condition qu'on mette en place des mesures qui permettent aux anciens esclaves parfois de rester sur la plantation et de continuer à l'alimenter, ou alors d'aller chercher à travers l'engagisme d'autres personnes en Afrique, en Inde et en Chine.
Fixer un salariat, développer en fait finalement abolir le statut d'esclave, mais pas la condition en réalité.
Exactement. Et ce que j'appelle le plantationocène, avec d'autres, je ne suis pas le premier à employer ce terme, c'est en réponse à un terme qui est, lui, environnementaliste, proposé entre autres par Paul Crutzen. Paul Crutzen est un prix Nobel de chimie, un géologue aussi, enfin, qui a voulu montrer que nous sommes arrivés à un tel niveau de destruction de la Terre que cette époque géologique, on peut l'appeler anthropocène, du mot anthropos, homme, c'est-à-dire l'ère géologique où ce qu'il appelle, lui, l'homme, devient une force géologique majeure qui perturbe les équilibres écosystémiques. Très bien, entreprise très louable. Le problème étant que ce mot, l'homme, est et demeure une posture coloniale. Parce qu'en fait, on occulte non seulement les différentes hiérarchies et dominations sociales au sein même des hommes, des humains, parce qu'en fait, l'homme, comme dirait Hannah Arendt, n'agit pas. L'homme est l'invention de Dieu, mais ce sont les hommes ou les humains qui agissent. Qu'il y a toujours une pluralité d'acteurs en lien, et on les occulte. En l'occurrence, on occulte les différents rapports entre maître et esclave, entre hommes et femmes, et aussi entre humains et non-humains. Et pour pouvoir attirer l'attention sur cette diversité et cette complexité d'acteurs, le terme de plantation est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est plantation donne plantationocène. En retour, là où je propose aussi un autre terme pour qualifier cette ère géologique, c'est le terme de négrocène, du mot nègre. Pourquoi ? Parce que la plantation a toujours été associée avec l'afflux ou le recours à ces formes de main-d'œuvre, ces êtres humains, mais aussi non humains, dont seule la valeur énergétique compte. Seule la capacité de labeur est recherchée, mais la voix, la dignité, la place au monde, la vie sociale est mise de côté. C'est ça, le nègre. Et du coup, comprendre que cette ère géologique dans laquelle nous sommes, c'est aussi l'ère où on a produit, où on a désigné tout un ensemble de personnes comme étant des personnes qui n'ont pas de place au monde, dont leur fonction est seulement d'alimenter les désirs de certains maîtres de plantation.
Des biens meubles.
Des biens meubles.
Comme ils étaient qualifiés dans le Code noir.
Exactement.
Et aujourd'hui, en fait, on retrouve ce qui procède de cette lecture du monde ou représentation des choses dans les indicateurs de mesure de la richesse d'une nation, d'un pays, à travers le calcul notamment des choses comme le PIB. Et en fait, on est vraiment dans cette généalogie-là, toujours dans l'appréhension de l'être humain seulement à travers finalement sa capacité de production, de valeur marchande ou sa capacité à valoriser du capital.
Oui, tout à fait. Ça fait. Il y a un autre terme aussi qui en vogue, celui de capitalocène, qui permet de qualifier cette ère géologique. Et ce qui est intéressant, et ce qui est même parfois comique, mais frappant, c'est le fait que la modernité a connu 5 siècles de colonisation, d'entreprises coloniales, de génocide, de crimes contre l'humanité, de guerre. Et ce sont ces actions hein, qui ont donné lieu à la crise écologique, à la dégradation environnementale, à la perturbation des écosystèmes. Mais ce qui est frappant, c'est que pour répondre à cette crise, les environnementalistes, en tout cas une pensée environnementaliste s'est développée, affirmant la nécessité que je partage de prendre en compte les écosystèmes, les non-humains, les animaux, les cours d'eau. Ils ont mis en place cependant une manière de penser ces changements qui fait fi de toute cette histoire.
Des conditions de la production de ces destructions.
Toute cette histoire coloniale, toute cette histoire esclavagiste. Et cela se remarque par exemple aux différentes figures, aux différents penseurs, souvent des hommes, mais aujourd'hui on sait qu'il y a bien plus qu'il y a des penseurs femmes extrêmement intéressantes, comme Vandana Shiva, ou ici Emily Ash, ou enfin voilà, un ensemble de personnes. Ils ont pris comme figure phare des hommes dans des sociétés postcoloniales et post-esclavagistes, mais qui n'auraient eu qu'un souci pour une nature vierge, pour aller vite. Que ce qui pose problème serait seulement la conservation d'espaces dits naturels, mais que les conditions politiques et sociales qui ont permis la destruction, la menace de ces espaces naturels, n'importe peu. Parmi ces hommes, on va trouver des figures comme John Muir, un Américain qui est célèbre aujourd'hui, en plus aux États-Unis, pour avoir été l'un des premiers instigateurs de ces parcs naturels, comme le parc de Yosemite sur la côte ouest en Californie. Mais des hommes aussi comme Pierre Poivre, ce Français au XIXe siècle qui a mis en place les premières politiques de conservation de forêts à l'île Maurice, on appelait l'île de France. La liste est longue, on peut arriver à Henri David Thoreau, on peut arriver à Aldo Léopold, on peut arriver à Arne Naess, voilà, un ensemble des penseurs. Et quand on va dans les textes, quand on lit par exemple ce qu'écrit John Muir, à titre personnel, je trouve ça extrêmement violent, extrêmement choquant, ce qu'il écrit sur les Noirs, ce qu'il écrit sur les Indiens. Et en fait, on voit qu'il invente une conception de cette nature vierge qui ne fait pas seulement fi des autres, mais qui se construit contre les autres. À un moment donné, dans un de ses livres, il parle de cet espace, alors magnifique, hein, j'ai pu m'y rendre d'ailleurs, de cet espace de Yosemite, où il dit, voilà, nous avons une... Alors le terme anglais, c'est wilderness. Nous avons une wilderness qui est belle, magnifique, paradisiaque, qui est propre. Ce sont ces termes. Par contre, il y a des Indiens qui sont des sauvages à moitié heureux et surtout assez sales. Texto. John Muir est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, se rend à Cuba, au XIXe siècle. Il me semble que c'était 1868. En tout cas, il se rend à Cuba au moment où Cuba est encore un pays esclavagiste. C'est-à-dire où encore il y a des êtres humains qui sont en esclavage. Vous savez que Cuba a aboli l'esclavage en 1888, hein, enfin en 86, l'un des derniers pays à abolir l'esclavage, avec aussi le Brésil. Et pourtant, là, il passe un mois à La Havane à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire à herboriser, à aller voir les plantes, à aller voir les animaux, à aller voir les coquillages. Et il s'y plaît. Et je pense que, voilà, il y a aussi un monde, entre guillemets, naturel qui est important de reconnaître. Par contre, ce qui est frappant, c'est que l'attention qu'il porte au noir est non seulement inexistante, mais quand elle existe, elle est extrêmement dégradante. Il dit avoir rencontré à Cuba les noirs les plus laids de toute l'histoire qu'il a rencontrés.
Alors qu'il s'émerveille devant les coquillages.
Voilà, les noirs les plus laids. Ouais. Enfin, ce sont les termes. Donc c'est choquant, c'est violent. Ça a été mis de côté. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier finalement cette construction raciale et coloniale de cet espace naturel de ces... Enfin voilà, on peut pas dissocier la construction d'espace naturel vierge d'homme de ces présupposés coloniaux et esclavagistes.
Donc en fait... Une écologie environnementaliste reproduit la matrice de pensée de la colonialité Et la colonialité, à ce moment-là, on peut la qualifier non seulement comme étant ce que certains appellent la conquista ininterrompue, mais aussi la colonialité comme étant l'incapacité de saisir ensemble, de penser le monde dans un même mouvement, enfin de penser tout ce qui nous entoure, que ce soit les humains, les non-humains, et d'accorder le même niveau d'exigence, en tout cas d'attention, et d'apporter le... Oui, de porter la même attention à l'autre, qu'il soit humain ou non-humain.
Exactement. Et là, on revient sur ce que je disais au début, c'est-à-dire on revient sur la double fracture. C'est-à-dire que John Muir, effectivement, il a fait en sorte que certains espaces boisés soient protégés, il faut le reconnaître, mais qui a été littéralement incapable de reconnaître finalement une même considération à des êtres pourtant, voilà, des êtres humains comme lui.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette conception de l'écologie environnementaliste. Elle s'accommode tout à fait de l'exclusion de certaines populations d'espaces, et c'est une conception quand même très naturaliste de la nature
qui ne
permet pas aux êtres humains d'habiter, enfin qui exclut en fait, qui c'est une conception de la nature pensée comme vous le disiez, virginale.
Oui, tout à fait. Et je pense que, enfin, cette conception, je ne l'appelle même pas écologie, parce que c'est une contradiction dans les termes. L'écologie s'intéresse à toutes les parties de l'écosystème et doit s'intéresser aussi aux humains. Pour moi, c'est une forme d'environnementalisme. L'écologie qui correspond à cet environnementalisme-là, c'est ce que j'appelle une écologie coloniale.
Fondamentaliste.
Voilà, et ça va pouvoir entraîner un ensemble de dérives. Des parcs qui sont construits, qui sont institués en Afrique contre les peuples autochtones.
Des expulsions, en fait.
Des expulsions, des évictions. Ça va donner lieu aussi à un ensemble de théories farfelues sur la surpopulation des personnes racisées dans le monde. Le problème serait qu'il y ait trop de ventre en Afrique.
Oui, la démographie.
Que les femmes font trop d'enfants. Le problème, comme disait Sarkozy, c'est que la fertilité est trop importante au Nigeria.
Oui, mais ça, c'est extrêmement grave, d'une part, et en plus, ça, c'est extrêmement faux. Parce que si aujourd'hui, on a une. Si on pense les problèmes auxquels nous sommes confrontés et la destruction du monde, elle est le fait de populations qui ne font pas d'enfants, pour aller.
C'est-à-dire que dans cette réflexion, effectivement, on ne pense pas nécessairement à ce qu'on appelle couramment l'empreinte écologique, et que, ben, on sait très bien qu'un Américain moyen. A besoin d'un espace, pas nécessairement a besoin, mais occupe un espace de la Terre beaucoup plus important que quelqu'un du Tchad, que quelqu'un du Darfour, et que Martiniquais, peut-être dans une moindre dimension. Et dans mon livre, je montre un peu que chacune de ces écologies, enfin en tout cas cette écologie coloniale, produit aussi un ensemble de figures. Donc les John Muir, les Thoreau, les Aldo Leopold, ce sont des figures du promeneur solitaire, avec différentes actions. Et une des figures que je montre dans cette écologie coloniale, c'est la figure du sacrificateur. C'est-à-dire que c'est cette personne qui va se parer d'une vérité scientifique pour attester du surplus du monde, en disant « Moi, j'ai la science, j'ai fait le calcul, ça c'est le propre de Malthus, j'ai fait le calcul, il y a trop de population, donc il faudrait réduire la population de ces personnes-là. » C'est la même chose avec le mouvement, à un moment donné, années 70-80, de l'écologie profonde, où ils font une plateforme en disant, au point 4 ou 5, il faudrait une diminution drastique de la population.
On ne dit pas de quelle population, en tout cas, en fait, c'est...
Et c'est surtout, ce sont surtout des hommes blancs qui font cet argument.
Oui, donc en fait, c'est très important de comprendre que le discours écologiste, ou soi-disant écologiste, il est traversé par des cultures ou des mouvements et des courants de pensée très différents, et qu'il y a beaucoup d'idéologie. Enfin, il peut y avoir de l'idéologie à l'intérieur de certains discours, et que, en fait, ce qui est présenté comme étant des faits, justement, ce que permet l'abstraction, que permet les chiffres et le discours expert et soi-disant scientifique, c'est de présenter comme neutre quelque chose qui, en fait, est complètement politique. Parce que Malthus, en son temps, prônait la diminution des naissances. C'était un discours politique, c'est pas un discours scientifique, c'est un discours politique. De la même manière que lorsqu'en 1972, le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, a été publié, il proposait... D'abord, principalement, plutôt au regard de la consommation des ressources sur la planète, proposait de plutôt ralentir l'économie des sociétés industrialisées, de ralentir sur, en fait, de poser en quelque sorte des limites à la croissance, à une forme de croissance. Et il y avait aussi un point sur la démographie, mais ce qui était beaucoup mis en avant, c'était quand même l'idée que les sociétés industrialisées consomment trop, globalement, et la planète ne peut pas suivre. Et donc c'était aussi déjà c'est un peu trop politique, mais qui n'était pas orienté de la même manière.
C'est-à-dire que je pense qu'on peut concevoir... On peut réfléchir, enfin, je ne suis pas pour rejeter toute la démographie, je pense qu'on peut réfléchir des fois à voir dans quelle direction on oriente le flux démographique, mais je pense que parler de ces questions sans mentionner ces inégalités de consommation des ressources de la Terre, là on est dans une posture coloniale. Et là on est dans une posture totalement idéologique, totalement politique, où au fond on construit un mur autour de nous, dont le centre est soit aux États-Unis, soit dans une Europe de l'Ouest, face à un E qui, comme par hasard, se retrouve, ce E issu de l'ancienne colonisation, les Indiens, les Africains, et aujourd'hui les Chinois sont ceux qui menaceraient, pareil, cette modernité occidentale.
Peut-être pour revenir sur la manière dont vous avez construit le livre et donc les différentes propositions, les différents navires et la manière dont vous nous proposez de cheminer pour construire cette écologie décoloniale.
C'est ça. Donc là, jusqu'à présent, on a parlé de finalement cette manière coloniale de penser l'écologie, on va dire en écologie coloniale. Ce que je propose, c'est le titre aussi du livre, je propose, et surtout je montre, parce que j'écris ce livre, mais je ne suis certainement pas le premier à avoir pensé ces choses ainsi. Je ne fais que pointer et montrer l'existence d'une autre genèse du souci écologique, d'une autre manière de penser cette crise, qui remonte au moins avant 1492, où là il y a des populations autochtones, notamment d'Amérindiens, des Kalinago, des Taino, dans les Caraïbes, qui ont d'autres pratiques, d'autres manières d'habiter la Terre, d'autres manières de se penser au monde. Mais même aujourd'hui, je montre qu'il y a une manière de concevoir la crise écologique qui est intimement, inséparablement associée à cette quête d'émancipation, à cette demande d'égalité et à cette recherche de justice. C'est ce que j'appelle une écologie décoloniale. L'écologie qui à la fois se soucie de la préservation des écosystèmes, à la fois se soucie de la dignité, particulièrement l'identité des racisés et des femmes. Quand on parle d'écologie, on parle de pensée de la Terre et du monde. Et ces pensées sont toujours bercées au sein d'imaginaires. L'imaginaire qui a animé et qui berce encore la plupart des discours écologistes est ce que j'appelle l'imaginaire de l'Arche de Noé. C'est-à-dire qu'on a l'idée qu'il y a un déluge qui va arriver. Le fait que le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaces qui va en retour faire monter le niveau des eaux rend bien compte de cette image d'un déluge qui arrive, de cette montée des eaux comme c'était par qui a commencé. Et face à cette montée des eaux, il faudrait qu'on construise une arche. Parfois, donc cet imaginaire est présent implicitement ou explicitement. C'est un imaginaire qui est très explicitement présent dans la pensée de Michel Serres, par exemple. Or, l'arche, ce n'est pas qu'un navire imaginaire, c'est aussi un navire qui a une fonction, en tout cas qui a une portée politique, où l'action à mettre en place est celle qui va mener quelques humains, en tout cas les élus, ceux qui sont choisis, à cette arche qui est censée nous sauver. Et en plus, dans cette arche, dans les récits de l'arche de Noé, on sait très peu de choses sur ce qui se passe à l'intérieur du navire. Comment finalement ces paires d'animaux choisis et la famille de Noé, comment ils cohabitent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment ils vivent, tout ça est mis de côté, est effacé, est occulté.
On ne sait pas s'il y a une cale ou pas.
On ne sait pas. Et face à cette arche, l'écologie décoloniale que je décris, que je pointe, elle montre aussi un autre imaginaire qui l'anime. Cet imaginaire de l'esclavage et de la colonisation. En particulier, cet imaginaire a aussi un navire mythique, un navire qui montre la naissance de ces sociétés, au moins ces sociétés caribéennes, c'est le navire négrier. Et là, le navire négrier, bien sûr, les historiens nous diront que voilà, le navire négrier, c'est de 1560 à 1800 et quelques, qui est une réalité historique, matérielle, bien sûr, mais le navire négrier a aussi une réalité imaginaire. C'est pour ça que dans plein de romanciers, de poètes, de sculpteurs, vous allez voir cette figure revenir encore, encore et encore. Or, L'avantage, si je peux dire, du navire négrier comme imaginaire, c'est qu'il montre la réalité sociale et politique, enfin, l'immédiateté de cette expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce n'est pas parce qu'il y a une tempête écologique à l'horizon, que l'expérience de domination à l'intérieur même de la cale est évacuée. Non, il y a des personnes qui sont dans la cale du monde. Et face à la tempête, elles n'ont pas à se dire « Bon ben, c'est pas grave, je vais rester dans la cale en attendant que la tempête passe. » Non. Faire face à la tempête, c'est aussi sortir de la cale du navire négrier. Et l'écologie décoloniale, au niveau imaginaire, c'est une sortie de la cale.
Et puis, la tempête, c'est déjà la cale, en fait. Enfin, l'enfer, c'est déjà la cale pour ceux qui sont dans la cale. La tempête, ils ne la voient pas à l'extérieur. Ils sont déjà en train de vivre leur propre tempête.
Et ça, c'est aussi un point que j'explique dans un chapitre du livre qui s'appelle « Cyclone colonial ». C'est-à-dire que je montre que finalement, dans l'imaginaire de l'Arche de Noé, on a l'impression que le déluge serait quelque chose d'extérieur, qui serait venu, pour le coup, qui serait créé par Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui serait extérieur, qui serait comme une malédiction. Or, ce que je montre en prenant l'exemple de certains navires négriers historiques, pour le coup, c'est que ce sont les conditions de domination sociale et politique à l'intérieur du navire qui créent la tempête. Et que faire face à la tempête implique de se confronter à ces différents conflits au sein même du navire. Il y a le cas historique en couverture du livre qui est peint par William Turner, donc c'est un tableau qui date de 1840, mais qui fait référence à l'histoire du navire négrier Zong à la fin du XVIIIe siècle. Le Zong est un navire négrier qui part des côtes africaines en direction de la Jamaïque. Cependant, il fait une erreur de navigation et il se retrouve à 10 jours de navigation de la Jamaïque, alors qu'il ne reste que, il ne resterait apparemment que 5 jours en termes de capacité d'eau. Là, l'équipage se réunit. Ils disent « Mais que va-t-on faire ?» Là, il y en a un qui a une idée. « Bah écoutez, on va tout simplement jeter des esclaves à l'eau. » Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait une provision dans les assurances, parce que les négriers ils prenaient des assurances en cas d'intempérie, qui disait que s'il y avait une intempérie très grave, ce qu'ils appellent les perils of sea, comme un cyclone, ce qui arrivait aussi, et que dans cette intempérie, le cargo qui en fait, enfin la cargaison qui en fait c'était des êtres humains, était perdue, alors ils pouvaient être remboursés. Donc ils se sont dit, si on jette des êtres humains à l'eau, et qu'on dit après qu'il y avait un problème, qu'il y avait un cyclone, alors on pourra se faire rembourser et on pourra quand même profiter de cet être humain. Donc là, c'est vraiment la folie totale, la folie complète et extrême du monde colonial où la jetée à la mort d'êtres humains devenait profitable. Et donc là, on voit bien comment il y a une invention, alors là, pour le coup, dans ce cas historique littéral, d'un cyclone qui devient un prétexte pour ne pas vivre ensemble.
Et c'est un cas qui est c'est une métaphore et à la fois de nos temps présents et c'est aussi très important ce moment permet de comprendre aussi c'est que en fait la pénurie d'eau est liée à une erreur de navigation. C'est important de le souligner. On fait fausse route, on se dirige vers un mauvais cap, on a développé un modèle de société insoutenable. C'est très clair. Donc, erreur de navigation, et là où il y a du politique, et là où c'est important, justement, de penser un navire sans cale, c'est que les luttes de pouvoir, les inégalités de situation et les conflits politiques qui sont internes au navire produisent la catastrophe en eux-mêmes. Parce que, dans un autre contexte, avec que des personnes sur un pont libre, quand bien même l'erreur de navigation aurait été commise par une personne de l'équipage, la solution envisagée aurait été certainement autre. Et on ne peut pas... Je trouve que c'est un épisode important parce qu'il nous permet de penser en fait toutes les dérives dans lesquelles on est en train de s'engager ou dans lesquelles certains tentent de nous engager. Et la difficulté qu'on a à penser en dehors et à penser justement la nécessité absolue d'être sur un navire commun composé d'hommes libres, quoi.
Tout à fait. La catastrophe est toujours construite. Même si l'aléa peut être naturel dans certains cas, comme les tremblements de terre par exemple, la catastrophe est construite. Et là, pour, en ce qui concerne les cyclones, on sait que le réchauffement climatique augmente l'intensité de certains cyclones, et on sait que ben, c'est une partie de la population qui contribue majoritairement au réchauffement climatique, mais que, par exemple, des pays comme ceux de la Caraïbe sont ceux qui vont en souffrir le plus. Ce rapport entre un cyclone qui, finalement, va venir renforcer la position de dominant des dominants et exacerber la domination des dominés, c'est quelque chose que Aimé Césaire avait déjà remarqué. Alors, dans cette entreprise de l'écologie décoloniale, de donner un autre récit, il m'a fallu aussi faire appel à d'autres références, à d'autres auteurs. Ce qui est d'ailleurs aussi extrêmement frappant dans la pensée environnementale, c'est que des auteurs qui sont pourtant phares comme étant dans la critique de modernité, des auteurs anticoloniaux, postcoloniaux, décoloniaux, sont quasiment absents de cette pensée. Ce livre est aussi une manière d'essayer de les, non pas de les réintégrer, de montrer qu'il y a une autre genèse du souci écologique qui se trouve déjà dans leurs écrits, comme Aimé Césaire, comme Édouard Glissant, comme Frantz Fanon, comme Maryse Condé, comme Alice Walker, comme Maya Angelou, enfin voilà, tout un ensemble de romanciers, de poètes aussi, comme Gil Scott-Heron et de chanteurs qui ont déjà compris cette dimension politique de la crise écologique ou cette dimension politique de la catastrophe. Donc une phrase et une citation qui pour moi exemplifie ce rapport de la catastrophe avec cette constitution coloniale du monde est disponible dans la pièce de Aimé Césaire, Une tempête. Donc c'est une pièce qu'il réécrit à la suite de Shakespeare. Il dit ceci, une réplique de Prospero. Nous manigançâmes la tempête à laquelle tu viens d'assister. Tempête qui préserve mes biens d'outre-mer et met en même temps ses sacripants en ma possession. Donc il montre que la tempête... Donc dans la pièce Une tempête, Prospero est sur une île isolée. Il y a une tempête qui ramène finalement son frère sur l'île, une tempête qui va servir ses intérêts. Et dans sa réécriture, Césaire montre qu'en fait, cette tempête devient littéralement...
Une bonne affaire.
Littéralement profitable, littéralement quelque chose qui va renforcer l'habité coloniale. Et quand on voit le cas de Katrina, quand on voit comment, encore aujourd'hui, certains cyclones exacerbent ces dominations, ce que Naomi Klein a qualifié de choc du désastre, on remarque que Césaire, en fait, cette relation est extrêmement forte. Et que du coup, plutôt que de rester dans une approche totalement naïve de « Ah là là, il y a un malheur qui est arrivé », il faut aussi chercher cette égalité au sein même de la catastrophe, ces demandes de dignité au sein même de la catastrophe. Ce qui m'a frappé, par exemple, dans le dernier cyclone qui est passé, je crois que c'était Dorian aux Bahamas. Ce cyclone passe sur les Bahamas, catégorie 5, extrêmement violent. Et là, on voit, bien sûr, Donald Trump, il refuse d'accepter un ensemble de réfugiés aux États-Unis. Mais en particulier, il y avait un camp d'Haïtiens qui vivaient dans des maisons, mais construites avec des planches de bois et des feuilles de tôle qui a été totalement ravagée. Et il sous-entend qu'il ne faut surtout pas que ces personnes-là arrivent aux États-Unis. Bon, enfin, voilà, on est un peu dans cette...
Dans votre livre, vous parlez également beaucoup d'autres références, pas seulement d'autres auteurs, mais aussi également d'autres références en termes culturels. Et vous parlez beaucoup du marronnage. Alors du marronnage à plusieurs moments, vous parlez du petit marronnage, du grand marronnage, vous parlez également du marronnage civil. Est-ce que vous pouvez développer sur justement en fait aujourd'hui ce que sont les différentes pistes pour sortir de la cale du navire ou construire un autre navire et celles qui ont été proposées par...
Alors le marronnage et la figure des marrons, ces figures-là sont extrêmement importantes pour toutes les Amériques, mais aussi dans tous les espaces coloniaux comme la Réunion et le Cap Vert au large de l'Afrique. Le marron est la figure, cette personne, homme ou femme, qui s'enfuit des plantations, qui s'enfuit du navire négrier ou qui s'enfuit des baraquements sur les côtes africaines. Bien sûr, les historiens ont montré, ils ont mesuré les différentes formes de marronnage, les différentes durées, le petit marronnage étant une courte durée, les grands marronnages sont...
Donc c'est l'esclave qui s'enfuit de la plantation.
L'esclave qui s'enfuit de la plantation,
quelques semaines,
qui revient. Le grand marronnage représente ces communautés qui ont perduré pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles. comme c'est le cas au Suriname avec les Saramaka, comme ça peut être le cas dans certains endroits de Jamaïque ou alors en Colombie, comme ça a été le cas en Virginie.
Ce sont ceux qui incarnent le refus de la plantation.
Le refus de la plantation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce refus, et encore aujourd'hui, la figure de Marron reste prise principalement à travers son refus politique, son désir de révolte, qui est là, qui est très fort. Mais ce qui est caché, à la fois au sein de l'histoire coloniale et à la fois au sein de l'histoire environnementale, c'est finalement le geste profondément écologique qu'ont mis en place les Marrons. Ils n'ont pas préservé une nature vierge, mais ils ont préservé finalement ces communautés humaines, non humaines, de l'habité colonial, de la plantation, de cette exploitation sans fin, compulsive, qui a vocation totalement à détruire et à servir. Et ce geste écologiste qui a été mis de côté, c'est vraiment dommage qu'on l'ait mis de côté parce qu'aujourd'hui, il fait partie de cette panoplie d'outils que l'on a pour lutter contre les destructions environnementales aujourd'hui.
C'est inspirant et vous parlez à cet égard non pas d'un art de la fugue, comme souvent le marronnage est qualifié de fuite, mais plutôt comme un art de vivre. Et vous montrez comment en fait les marrons ont réussi à produire d'autres rapports que ceux qui avaient été configurés par la plantation. Vous citez Césaire qui lui dit que en faisant cela, en marronnant, ils ont réussi à renverser l'entreprise impériale qui fit du navire négrier l'unique façon dont une pluralité pouvait être mise en présence. Et c'est assez fort.
Oui, alors je parle à partir de Césaire, mais je vais juste clarifier ces deux points. Le marronnage a ses vertus, mais a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'effectivement, les marrons, majoritairement, sont partis de la plantation, mais il reste quand même cette rupture, cette fracture avec ceux qui sont restés sur la plantation. Et que parfois, il est difficile, finalement, de faire cette alliance entre ceux qui sont dans la plantation et ceux qui sont dans les camps marrons. Alors bien sûr, il y avait des communications, enfin voilà, il y a des historiens et des anthropologues comme Richard Price et Sally Price qui travaillent sur cette question. Mais Toni Morrison, paix à son âme, disait ceci: il n'y a véritablement qu'une seule intrigue dans l'esclavage. On est dedans, on veut en sortir. Et la figure qui incarne cette sortie de la case, sortie d'esclavage, c'est le marron. C'est pour ça qu'elle est importante. Par contre, ce que je décris à partir de Césaire, c'est encore une autre figure finalement. C'est la figure qui correspond à ce dernier navire que je travaille dans mon livre, ce navire monde, avec un tiret entre les deux, navire monde. C'est cette figure du compagnon de bord. Le marron, quand il s'en va pour sa vie, il s'en va pour les siens. Parfois, il revient comme Washington aux États-Unis pour rechercher sa femme et ses enfants. Parfois, il ne peut pas revenir. Parfois, aussi, dans les camps marrons, il y a eu des rapports très difficiles entre hommes et femmes. C'est ce que Maryse Condé montre en essayant de trouver une forme de marronnage qui est à la fois une opposition à l'esclavage, à la fois une exigence d'égalité homme-femme. Mais ce qui se passe, c'est quand même, il y a malgré nous le fait que dans le marronnage, une forme d'abandon de ceux qui sont dans la plantation. Et c'est là la limite du marronnage. Et aujourd'hui, des lieux comme les ZAD, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, reproduit cette forme de marronnage. Mmh. Alors, la différence, c'est quand même qu'ils ne font pas face aux mêmes formes de racisme systémique que des Noirs aujourd'hui traversent. Et que, comme dit Amandine Gay, s'il y avait 200 Noirs qui avaient occupé un terrain à fumer parfois un peu de certaines choses, les choses se seraient passées différemment, et là, on peut être d'accord. Mais quand même, ce geste, cette praxis marronne est présente et est très forte. Ce que Césaire montre, ce n'est pas exactement un marronnage, c'est quelque chose d'autre. Ce que j'appelle la figure du compagnon de bord. Qu'est-ce que c'est que la figure du compagnon de bord? Le navire négrier nous a laissé penser que soit on est dans la cale, soit on a une fuite marine et on s'en va. Mais on ne peut pas être sur le navire et être libre. Et c'est là la radicalité du geste de Césaire, mais de l'ouverture et d'autres encore. De Rosa Parks, de Malcolm X à un moment donné, enfin voilà. Ils ont dit, écoutez, partir, oui, parce que la rencontre est trop violente. Mais le chemin que montre Césaire, c'est une manière de dire il est possible de vivre ensemble sur ce navire, même avec les descendants de ceux qui ont opprimé mes ancêtres. Il est possible que ce navire soit autre chose que navire négrier. Et ce qui fait que ce navire sera autre chose que navire négrier, ce n'est pas seulement le nom qu'on met dessus, ce sont les relations qu'on va pouvoir instaurer ensemble. relation d'égalité, relation de dignité, relation de paix. Et la radicalité du geste de Césaire, radicalité aussi qui était le geste de son ouverture, quand il proposait une forme de fédéralisme avec la France avant l'indépendance, c'est de dire, écoutez, nous allons renverser, nous allons faire de ce navire, des cendres de ce navire, le navire de monde. Le navire monde. Et cette figure, la figure du compagnon de bord, tente justement d'ouvrir ces espaces de rencontre. Mm. De rencontre avec l'autre humain, mais aussi avec l'autre non-humain. Mm.
Et comment, très concrètement, du coup, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on parvient à produire les conditions de cette rencontre. J'imagine que c'est un peu ce à quoi vous tentez de répondre aussi.
Oui, parce qu'il y a, une tendance, on va dire, assez simpliste, à notamment une lecture totalement erronée et partielle de l'œuvre de Glissant sur la créolisation, ou même de Chamoiseau, enfin, voilà, ou sur l'hybridité avec Mbaba, qui va dire, bon, voilà, nous sommes tous créoles, nous sommes tous métis, donc c'est bon, ces questions d'injustice et d'inégalité, on les met de côté, de toute façon, voilà. Non. Pour que cette rencontre puisse se dérouler dans des conditions dignes, il est nécessaire d'instaurer ce que j'appelle un pont de la justice. Alors, le pont, j'aime bien ce terme parce qu'il veut dire au moins deux choses. D'abord, le pont qui permet de passer d'une rive à une autre, mais aussi cet espace de rencontre qu'on voit dans des films, des fois, comme Star Trek, ou alors... C'est-à-dire, oui, le pont, Captain on the Bridge. Et sur le pont, alors Star Trek, la science-fiction a sa place dans ses réflexions, est intéressante parce que, sur le pont, il se passe des rencontres entre des êtres qui ont des qualités totalement différentes, qui ont des histoires, parfois, ce sont même des espèces totalement différentes. Et ce pont qui permet la rencontre, pour moi, doit être un pont de justice. Mais attention, ce n'est pas seulement une justice contemporaine, ne me tue pas aujourd'hui, ou alors donne-moi une égalité de salaire, de place, etc., bien sûr. C'est aussi une justice transgénérationnelle, entre le passé, le présent et le futur. Parce que c'est aussi ça dont il est question dans le monde d'aujourd'hui, dans la crise écologique aujourd'hui. Les émissions de gaz à effet de serre que l'on émet aujourd'hui sont celles qui vont réchauffer la planète de nos enfants. La température que l'on connaît aujourd'hui est le résultat des émissions qui sont passées il y a quelques dizaines d'années. Ce que je demande, ce que je propose en tout cas, ce que j'exige aussi, c'est que cette justice transgénérationnelle qui est déjà en place, qui est déjà pensée dans ces questions, notamment avec les protocoles de Kyoto, avec les accords de Paris, la COP21, je demande à ce que cette justice transgénérationnelle soit sortie de l'impasse de la double fracture. Que si on peut penser une justice transgénérationnelle en termes d'écologie, en termes d'environnement, alors il faut aussi qu'on la pense en termes politiques, sociales. Il faut aussi qu'on la pense dans le rapport à l'histoire de l'esclavage, dans le rapport à l'histoire de la colonisation. Et c'est pour ça que si, comme je propose, l'objet de l'écologie n'est pas seulement de préserver la nature, mais aussi d'instaurer un monde de dignité, cela implique qu'il faut aussi qu'on puisse reconnaître les dignités de ceux qui ont été mis en esclavage, de ceux qui ont été colonisés. Mmh. Et des actions comme les demandes de réparation qui émanent de tous les pays caribéens, des actions comme les propositions, les demandes de restitution d'objets d'art,
de dette écologique,
les actions comme la reconnaissance des droits des autochtones, des demandes de justice des peuples polynésiens, des demandes de justice de la jeunesse autochtone de Guyane, sont aussi des actions qui doivent accompagner cette justice écologique transgénérationnelle. Mmh. Et je pense que c'est la justice qui peut être garante d'une véritable rencontre qui, elle, à mon avis, elle seule peut donner lieu à un monde, un monde commun.
Mmh. Donc, bon, vous faites beaucoup confiance aux instruments humains et temporels à travers le droit et la justice, mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans votre livre, et il me semble qu'il y a deux choses très importantes, c'est que peut-être la première chose à faire, c'est la déconstruction, comme vous le faites, du discours sur la modernité, au fond, réussir à voir que depuis 5 siècles, on a construit un monde. Des hommes ont tenté de construire des paradis, mais ça s'est fait au prix de la construction d'enfer. Il faut réussir à penser ensemble, ce qu'on n'arrive pas à faire encore aujourd'hui. Et donc la construction d'un nord, d'un sud, de centre et de périphérie. Et que le processus par lequel cette modernité s'est construite à travers l'idéologie du développement, le mythe du progrès. Il faut qu'on réussisse à voir les limites de cette société développée et en tout cas à voir que ces sociétés-là ne sont que la partie du pont, du navire, un négrier. En fait, que les sociétés qu'on a réussi à produire, les sociétés du Nord, ce sont des navires négriers. Et que du coup, ça implique aussi, comme d'autres penseurs décoloniaux, je pense notamment à Arturo Escobar, colombien, anthropologue colombien, qui pense aussi une réelle critique du développement et du mythe du développement, et que ce qui nous reste aujourd'hui à faire, les générations futures mais celles du présent, c'est la proposition d'un autre développement qui ne passe pas par le saccage du monde des autres, par le saccage d'une partie du monde dans tous les cas, et que pour ça, vous en parlez dans votre livre, il est important d'avoir une conviction très forte, à savoir celle que d'autres manières d'habiter la Terre et d'habiter le monde sont possibles, quoi.
Tout à fait. Alors, première chose, l'écologie décoloniale est une écologie de lutte. La justice et le droit sont des outils pour la lutte, comme il y en a d'autres. Mmh.
On n'a pas parlé du marronnage civil et de la désobéissance civile. Mais...
Voilà, le marronnage civil est aussi... Et le fait que la lutte, en tout cas la lutte des racisés et des noirs pour sortir de la cale du négrier aujourd'hui, ou la cale du monde, la cale de la modernité, est une lutte qui doit concerner tout le monde.
Ouais.
Ce n'est pas une lutte qui concerne que les noirs et les racisés. Et que dans l'histoire, il y a aussi des personnes, quelqu'un qui m'impressionne énormément, c'est John Brown, le capitaine John Brown. C'est un blanc américain au 19e siècle qui a une telle aversion pour l'esclavage qu'il décide... avec sa femme, avec ses enfants, de s'engager pleinement dans la lutte anti-esclavagiste.
Lutte armée.
Lutte armée. Lutte armée au point où il est pendu pour sa lutte. Deux ou trois de ses enfants meurent dans cette lutte. Tout ça parce qu'il était convaincu que finalement, l'autre en face de moi est un être qui est digne et que je veux faire un monde avec lui. Donc, il faut comprendre que, de manière métaphorique, l'écoutille qui sépare la cale du pont, elle se brise des deux côtés. Elle se brise depuis l'intérieur de la cale, c'est ce que nous montre la Haïti. Elle se brise depuis le pont, c'est ce que nous montre John Brown. Mais c'est ce que nous ont montré aussi un ensemble d'hommes et de femmes blancs qui se sont engagés pour la lutte anti-esclavagiste. Donc ça, c'est pour le marronnage civil. Et encore deux choses. Le navire négrier, c'est plus qu'une embarcation historique. C'est un schéma de rapport entre différents groupes d'êtres humains. C'est vraiment un dispositif. Dispositif qui peut ne pas prendre les mêmes formes aujourd'hui, mais se reproduit. Et effectivement, comme l'ont remarqué Patrick Chamoiseau et Christiane Taubira-Delannon, ce qu'on voit aujourd'hui, jour après jour dans la Méditerranée, c'est bien trop familier. C'est extrêmement révoltant. Ce que vous disiez, sur lequel je veux insister, avoir déjà en tête qu'il y a d'autres manières d'habiter la Terre, et que ces autres manières ne doivent plus être ridiculisées, être bafouées, minorées, mais être reconnues. Je ne suis pas en train de dire que cette manière-là est la meilleure, cette manière-là est celle que tout le monde doit adopter, mais je remarque qu'il y a une modernité qui nous a inculqué un habité colonial, une manière extrêmement destructrice d'être sur Terre, d'être en relation avec l'autre humain et non humain. Et là où ça se remarque, puisque voilà, je pense aussi depuis mon histoire, depuis ma terre natale caribéenne, martiniquaise, et là où ça se remarque aussi, on va dire ça c'est le crime culturel commis par le navire négrier, c'est finalement l'effacement que le navire négrier a fait de toutes ces cosmogonies, cultures, histoires et manières d'être au monde que connaissaient déjà différents peuples africains avant d'arriver aux Antilles et dans les Caraïbes. Et l'écologie, c'est aussi une question d'imaginaire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi cultiver la connaissance de ces différentes manières d'être au monde, de ces peuples premiers. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie. C'est ce que j'appelle retrouver le soleil d'Afrique.
C'est une belle métaphore qui nous sort de la plantation, cultiver d'autres cosmogonies et d'autres manières d'habiter la Terre.
Et les enseigner, savoir qu'elles existent.
Les transmettre.
savoir qu'ils existent, savoir que bon, bah, voilà, vous avez tel modèle, vous avez d'autres modèles, les connaître, savoir que la plantation n'est pas la seule façon d'être au monde. Donner différents repères, différentes références qui vont en retour pouvoir irriguer les luttes nécessaires, parce que là, il ne faut pas se cacher les choses, c'est une lutte. Mmh. Et
ça fait partie des arts.
Voilà. Des outils.
Des outils. Peut-être pour conclure, l'écologie décoloniale, telle que vous la pensez, vous la théorisez depuis le monde caribéen, quel est son apport majeur face aux difficultés et aux nombreuses impasses ou incohérences dans lesquelles les mouvements écologistes ou non écologistes peuvent se trouver, et qu'est-ce que ça permet de, voilà, peut-être de réconcilier et de...
Alors, l'enjeu majeur que j'apporte, c'est celui-ci. S'il y a une écologie décoloniale, c'est qu'au départ, il faut reconnaître qu'il y a une écologie coloniale. Donc, ce que je montre, c'est cette double fracture entre la fracture coloniale et la fracture environnementale. Et tout l'effort que je mets dans ce livre, dans ce concept, cet effort de penser cette fracture. Donc la penser d'abord, concevoir, la reconnaître, l'attester, la pointer du doigt. Et la penser, PNSER, c'est-à-dire de trouver des alliances qui permettent aux uns et aux autres d'avancer dans un même sens. Qui permet aux uns et aux autres de se rencontrer. Donc l'écologie décoloniale, face à ça, elle montre finalement ces récits de ces personnes pour qui la préservation de l'environnement n'est pas uniquement quelque chose de l'ordre d'une préoccupation naturaliste, mais qui est associée intimement à la quête d'égalité, à la défense de ses droits, à la vérification de notre dignité, et métaphoriquement ce que j'appelle à la sortie de la cale, de la modernité. Mais la fin, c'est-à-dire l'horizon, qu'est-ce qui est ouvert à travers cette écologie décoloniale ? L'horizon, c'est de créer ce que j'appelle un navire-monde. C'est de réussir à se rencontrer, de réussir à mettre en place les conditions à travers lesquelles on peut se rencontrer dans un espace de dignité, dans un espace d'égalité. D'inventer des manières de se rencontrer qui ne soient pas aussi destructrices que ceux qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui. Une première proposition s'adresse déjà aux écologistes, on va dire classiques, en France, mais partout ailleurs. Je les encourage à s'ouvrir aux thématiques et enjeux qui animent les milieux antiracistes ou les militants antiracistes, les militants décoloniaux. La ligne reste la même, penser la double fracture, mais c'est de reconnaître que le souci qu'il y a aujourd'hui, par exemple, face au glyphosate, face aux pesticides qui sont potentiellement épandus à 5 mètres des maisons ou des écoles, que ce souci qui vise à faire quoi ? Qui vise finalement à recouvrir, à retrouver nos corps, à reprendre une responsabilité pour nos corps. Ce sont des engagements qui disent, mais en fait, on veut savoir ce qu'il y a dans nos corps. On veut préserver notre santé. Que cet élan-là n'est pas à différencier de ces luttes quotidiennes par lesquelles des Noirs, des racisés, se confrontent à une violence dans l'espace public, où elles aussi, ces personnes-là, elles aussi, ont envie de retrouver leur corps. Que quand moi je me fais contrôler dans l'espace public parce que je suis noir, parce que je suis martiniquais, c'est quelque chose qui relève aussi de ma manière d'habiter la Terre. Et que quand SOS Racisme montre en étude que, ben oui, les noirs, les racisés vont être plus sujets au contrôle de papier, vont être plus sujets à des discriminations au logement, écologie, oikos, foyer, former un foyer, que ça aussi ce sont des termes écologistes qu'il faut prendre en compte. Et que la mère de famille qui donne une banane à son enfant, qui a envie que son enfant grandisse, plein de vitamines, soit fort, puisse sauter, faire du basket, je ne sais pas quoi, que c'est important de voir aussi d'où viennent ces bananes, d'où viennent ces produits. Que là où ces bananes sont produites, ben, y a des mères de famille aussi qui ont envie que leurs enfants soient sains et en bonne santé. Qu'est-ce que ça va l'un dans l'autre ? De l'autre côté, c'est important aussi aux militants antiracistes de reconnaître qu'on ne peut plus, parce qu'on s'intéresse à la violence quotidienne à laquelle on est confronté, mettre de côté ces enjeux écologistes. Qu'on ne peut pas, et ça c'est quelque chose, on ne peut pas...
On ne doit pas les opposer, enfin.
Exactement, mais on ne peut plus être les fervents défenseurs de l'anti-esclavagisme et en même temps, par nos modes de consommation...
Alimenter des rapports de
prédation. De destruction de forêts, mais aussi envers les non-humains, envers les animaux. Moi, ça m'horrifie de voir que si je mange une omelette, l'œuf, il vient d'une poule élevée en cage.
Oui.
Enfin voilà, on a vu les vidéos de L214, des cochons, des vaches qui sont traitées dans des rapports esclavagistes. Je ne peux pas être, moi, le fervent défenseur de la mémoire de l'esclavage. Oui, ce sont des êtres humains. Et puis de dire, bah, parce que ce sont des animaux, finalement, là, je m'en fous. Parce que c'est exactement ce qui se disait au XVIIIe siècle, en parlant de nous. Donc là aussi, il faut interroger les pratiques.
Absolument. Ouais, donc cette écologie décoloniale, telle que vous la concevez, quelque part, elle abat des frontières qui peuvent aujourd'hui être érigées entre différents mondes. Et ce que vous montrez à travers cette idée, par exemple, que ben, la manière dont les corps blancs aujourd'hui, privilégiés, se sentent agressés par des pesticides ou autres, et donc se protègent, en tout cas se prémunissent, d'ailleurs c'est une manière très très individualiste de penser l'écologie, mais en tout cas donc, en mangeant bio par exemple, et en préservant la terre, en du coup n'encourageant pas une agriculture mécanisée ou qui emploie des phytosanitaires, comprendre que bah, dans d'autres contextes, d'autres personnes se retrouvent confrontées au même souci de la préservation d'elles-mêmes, mais à travers d'autres menaces, en fait, enfin, qu'elles font l'objet d'autres menaces, et que donc, voilà, il faut peut-être... ce que vous proposez, c'est de dépasser un petit peu les formes que prennent les différents dangers auxquels sont exposées différentes populations, et de faire monde, c'est de se dire que ce que l'on souhaite tous, au fond, c'est de mener une vie bonne et ne pas porter préjudice à autrui, et que, à travers cette question-là, on peut aussi...
Habiter ensemble la Terre dans des conditions d'égalité, de dignité. Enfin, je crois qu'on aspire tous à ça. Mais ça implique, bien sûr, d'interroger nos propres manières dont on habite la Terre, ce qu'on consomme, ce qu'on fait. Pour tisser un peu cette double fracture entre fracture coloniale et fracture environnementale, je me suis servi de noms de vrais navires négriers, et j'ai raconté dans des petits paragraphes, en fait, les histoires de ces navires négriers avec une certaine liberté de prose. Donc chaque chapitre est précédé, en fait, de ces noms de vrais navires négriers, afin de mettre en exergue un certain point. Donc là, je vous propose, peut-être pour terminer, de vous lire juste un extrait du dernier chapitre qui s'appelle « Une écologie du monde, 2 points, sur le pont de la justice ». Et là, je parle d'un navire qui s'appelle Justice, un navire négrier qui s'appelle Justice, de 1670. Au départ du Havre, le 1er novembre 1669, le navire Justice s'élance dans des eaux qui lui sont nouvelles. Sur le pont lumineux, clamant haut le nom de sa frégate de 365 tonneaux, le capitaine Delbé s'apprête ici-bas, dans l'ombre de la cale, à faire l'œuvre des injustes. Au port d'Adra, sur la côte africaine, à mesure que les 434 déniers furent montés à bord, la Justice se taisait. Alors, les embarqués se mirent à rêver, d'un navire à la hauteur de son nom. Ils briseraient leurs chaînes et remonteraient sur le pont. L'équipage ferait de l'hospitalité leur cap véritable. Certains installeraient des tables et des chaises ouvertes à toutes les peaux et sentiences, pour discuter du monde et des chemins possibles ensemble. Des danses, des amours, des cuisines et des paysages. Maintenus par une corde au-dessus de la mer, d'autres peindraient à nouveau sur la proue les lettres de justice. Un sursaut houleux et une douleur aiguë aux échines vinrent rappeler les parois acérées de la cale et interrompre ces rêveries collectives. Une centaine ne se réveillait pas. Le 7 juin 1670, 334 autres furent expulsés hors de justice sur la rive caraïbe de la Martinique. Reste ce rêve qui s'émut en désir porté par des millions de mains et de pattes, d'ailes et de nageoires, de branches et de montagnes, de terre et de cours d'eau. Voilà. Ce rêve de justice.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. La musique du générique est un extrait de l'album « Par les damnés de la terre » de Rossé. Et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampateba. On espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie de le partager et d'en parler autour de vous. À bientôt!
À présent, le poison des Antilles françaises, son nom le chlordécone. Ce pesticide hautement toxique a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993
et...
Lors tu déconnes, ceux qui t'autorisent prennent-ils pour des connes. C'est sciemment que tous ces gens-là nous empoisonnent. Ils disent qu'il n'y a pas d'antidote, mais je suis sûr qu'ils m'y donnent. Ils veulent qu'on lâche nos terres, pour qu'on leur donne. Amis les nids, ils veulent que tu t'abonnes. Ils veulent que les rastamones abandonnent. Ils veulent que les agriculteurs abandonnent. Ils veulent que les particuliers abandonnent. Longtemps, ils nous ont à la mort.
Sans péter pour la vie des hommes, des enfants, mais des femmes, on a bouffé la gagne, ils ont fait rentrer la gamme. Les tours du français, mon coach, on pense qu'on change de banane. La mère reçu le message, il va tomber dans l'espace. Mais non, lâchez le poison, ils attendent juste qu'on gagne. Ne fera mon peuple guérir de tous ces cancers. Parfois je me demande vraiment à quoi tout cela sert. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que ces gens-là soient sincères? Qu'est-ce qui s'en bat les couilles qu'on plante du poison sous serre? Je suis pas amer, j'ai juste un ulcère. Plus de 40 ans ça dure.
On s'est servi de la voix de l'homme.
Je suis mon père, ça rapportait à une certaine caste.
Les sols sont pollués, les cours d'eau sont pollués, ils le sont pour longtemps. 80 000 personnes habiteraient dans les zones contaminées. Fallait faire ce qu'il fallait, On a bien repéré des traces en Afrique et en Amérique du Sud.
Y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés. Et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes. À une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains,
Ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leur merveilleuse promesse. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Rebonsoir à tout le monde. Donc, pêle-mêle, on a écouté plein de choses différentes sur différents formats ce soir. Il y avait à la fois donc une interview de Malcolm Ferdinand, il y avait plusieurs morceaux de musique à la suite, parce qu'on a pensé qu'ils s'ajustaient plutôt bien les uns avec les autres et que c'était un peu justement la juxtaposition de tous ces morceaux qui créait du sens. Donc, il y a eu des titres assez différents en style, en origine, en période aussi. On a eu un morceau d'un jeune artiste martiniquais qui se mobilise contre cette honte qu'est le chlordécone. On a eu ensuite un titre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi c'était toute mon enfance et qui peut paraître ultra mainstream pour Radio Libertaire, mais Respire de Mickey 3D et... Et voilà, enfin, il m'a semblé quand même que malgré tout, les paroles étaient belles et que ça faisait vraiment sens à l'heure actuelle. On n'est plus dans une dystopie, malheureusement. C'est ce qui est décrit dans la chanson, c'est ce à quoi on est confronté. Enfin, en tout cas, pas nous directement, parce qu'on a la chance, l'audace ou la honte de vivre dans des régions qui sont encore épargnées, mais... voilà, en tout cas, c'est des choses auxquelles on est confronté de plus en plus, où on va être amené à être confronté, et c'est bien flippant. Mais quand même, la petite touche de Charlie Chaplin à la fin... Alors, j'ose espérer, j'ai pas vérifié la traduction exacte, mais donc c'est un des discours de fin du dictateur de Charlie Chaplin, et... Mais voilà, donc en doublé français, donc j'ose espérer que c'est fidèle à la version originale. Je vous avoue que j'ai pas vérifié, mais quand même, ça fait à la fois du bien et c'est un peu effrayant, ou en tout cas interrogateur, de voir à quel point toutes ces questions traversent les âges et à quel point ça peut être cyclique. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve le mois prochain, deuxième mardi du mois, de 20h30 à 22h30 sur Radio Libertaire 89.4. Et on vous souhaite d'ici là de bonnes manifs, de bonnes mobilisations et plein de force et de courage pour ce à quoi nous toutes et tous sommes confrontés actuellement. Bonne soirée, à bientôt, ciao.